Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le tremplin idéal vers votre premier week-end déconfiné. Je peux vous dire que ma complice Evaroc est dans un état d'excitation inédit, pas vrai ma belle?
J'étais confinée matin et soir, il n'y avait plus aucun espoir. Enfin nous sortons du confinement.
Oui, vous êtes... oui.
Je veux fêter ce déconfinement.
Comment?
Avec ma bande de copains.
Mais avec la distanciation, hein.
Je vais fêter.
Pas trop quand même, hein, c'est ça.
En buvant jusqu'au matin.
Ah oui, ok. Ah ben là, je vous retrouve, Eva. Du coup, vous regardez plus la télé, les écrans. Vous allez...
C'est mon programme du
c'est
soir.
C'est votre programme du soir. Oh mon Dieu, oh, j'ai pas envie. Prenez des photos, enregistrez-vous.
Non, hein, n'hésitez pas.
Ou envoyez-moi ces petits messages que vous m'envoyez parfois, vous savez, quand vous êtes déjà ivre.
Non, arrêtez.
Et que du coup, les messages sont illisibles.
Mais non, parce que c'est quand je suis ivre au bar et comme il n'y a plus les bars sont fermés, je peux pas. Voilà.
En attendant vos précieux conseils télé,
oui.
Et non pas picole,
non.
Saluons nos deux ultimes concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. En duplex avec nous de Marseille, notre fashionista marseillaise, la fashionista Yoli, comme on la surnomme, Nathalie Chevance, va nous montrer qu'un masque peut devenir tendance. Nathalie, qui tient aussi, je crois, une sacrée réforme à la veille de ce premier samedi déconfiné.
J'ai hâte de dépenser tout ce que j'ai mis de côté.
Ah bon ?
La petite boutique de prêt-à-porter, tête ouverte.
Je vais me trouver une belle robe de cocktail chez Gucci ou bien chez Chanel. Un sac Hermès, des centaines de godins.
Super ! Attention quand même, à pas tout claquer d'un coup. Bonjour Nathalie.
Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bonjour Mathieu, bonjour Eva.
C'est
bonjour
la libération. Nathalie. Alors comme ça, à Marseille, oui, ça. Nathalie, le masque n'est pas seulement protecteur, il est aussi fashion.
Oui, les tendances version masquée, vous allez voir, la mode version masquée.
Votre rival cet après-midi, Nathalie, est en ligne avec nous du Perche. Changement d'ambiance. Il est le représentant de la communauté scientifique au sein de notre émission. Il a encore eu le professeur Raoult hier soir au téléphone pour évoquer les dernières avancées.
On a commencé les tests avec la chloroquine. Les résultats sont plutôt encourageants. On a trouvé ça, c'est un coup de bol, en faisant des gin toniques.
Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Je me permets, d'habitude je reviens pas sur les sons, mais là en ce moment il y a tellement de petits.
Mais c'est génial,
c'est
ça.
Donc des parodies sur internet, vous l'aurez compris. Ça c'est un détournement d'Independence Day, la séquence où le président vient visiter le laboratoire.
Exact.
Et il y a un mec qui effectivement ressemble à Raoult. Ils ont changé évidemment les paroles et c'est pas mal. Alors Alain, vous êtes notre spécialiste scientifique. Aujourd'hui, pour nous détendre un peu des études anxiogènes, vous nous proposez une étude amusante mais aussi édifiante sur les incivilités routières.
Moi, je vais vous emmener faire un petit tour du côté des sciences humaines, parce que c'est vraiment quand même un régal, avec un article scientifique que j'ai découvert qui s'intitule, mais c'est vrai, hein, « Il n'y a pas que des connards qui conduisent des Mercedes ».
Non, il y a aussi des gros cons, c'est ça la suite, le sous-titre. Alors, peut-on être poli au volant d'une Mercedes ou peut-on être glamour en portant un masque? L'un de ces deux sujets vous plaira plus que l'autre. Réponse juste avant 18h, mais pour tout de suite... Mais pour tout de suite, ça ne veut rien dire. Mais là, tout de suite, c'est l'heure du mix, Eva.
Mais oui, comme chaque jour avec Sébastien Bordonnave, on s'amuse à scruter les réseaux sociaux à la recherche de contenus drôles et décalés. Alors, au menu, aujourd'hui, le très drôle Louis Bertignac pour à la fois un tuto guitare et des blagounettes très rock'n'roll. Le site de Topito qui a listé toutes les phrases qu'on prononce en ce moment depuis le déconfinement. Pas le confinement, le déconfinement. Et on commence avec le formidable Pierre Richard. Hier, il a posté une vidéo sur sa page Facebook, vidéo dans laquelle il nous lit la lettre d'un fan.
Il m'est arrivé durant toute ma carrière de recevoir énormément de courriers. Et je ne peux pas m'empêcher de vous en lire une. Cher monsieur Richard, figurez-vous que ma mère va fêter son 54e anniversaire. Nous préparons une grande fête familiale en son honneur. Alors si vous pouviez venir chez nous à cette occasion, je crois que ça lui ferait une grosse surprise. Ben oui, vu qu'elle aurait quand même préféré Gérard Depardieu. Seulement voilà, il n'a jamais répondu à notre demande. Et le temps presse. C'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur vous. Comme dit ma mère, faute de grive, on mange des merdes.
Vous me direz si vous m'entendez. Sinon, on reporte la session. C'est pas grave. Peut-être c'est une soirée sans son, comme Véronique.
Non, je sors pas. J'ai pas passé 2 mois à faire le ménage dans mon appartement pour sortir et tout dégueulasser en rentrant. J'ai de la farine, j'ai BFM, je peux tenir encore des mois comme ça.
Alors, appli de muscu, ça dégage. Appli pour apprendre l'italien, ça dégage.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de cette machine à pain?
Et j'ai aussi Gimme Shelter. Ça vous intéresse d'apprendre l'intro de Gimme Shelter? Je parle pas de Michel Thor. Hein. Michel Thor. Gimme Shelter. Ce sont des Rolling Stones. Alors, Gimme Shelter, ça fait comme ça.
Il est en grande forme, comme Louis Bertignac.
Oh, oui. Lui aussi se lance dans le stand-up.
Exactement. Donc c'était Louis Bertignac, les gens du site Topito et le formidable Pierre Richard que vous avez entendu en début de mix. Voilà.
Nathalie Chevance, puisqu'on a la chance d'être avec vous en duplex de Marseille aujourd'hui, comment ça se passe? On blaguait sur le professeur Raoult tout à l'heure. Il disait lui que sur Marseille l'épidémie touchait à sa fin. Est-ce que quelle est l'ambiance sur Marseille? C'est ça. On sent un peu sceptique.
Mais écoutez, l'ambiance, la Raoult mania, j'ai envie de vous dire, ne retombe pas. Hein, parce que là, il y a par exemple une petite fourgonnette qui tourne dans Marseille avec la photo du professeur Raoult pour le remercier. Voilà.
Ah oui, quand même.
Version druide. Alors, c'est pas lui qui l'a fait. Hein,
oui,
c'est
oui, on imagine bien.
Ouais. Voilà, mais c'est un admirateur. Alors, on se fait les tatouages aussi avec le visage du professeur Raoult, alors sur le bras, sur la cuisse.
Ah, c'est la nouvelle tendance de l'été.
Oui,
on en parlera une prochaine fois. L'une est une icône glamour de la Côte d'Azur avec ses masques customisés. L'autre, un chauffard qui tape des pointes de vitesse sur les départementales du Perche au son d'NTM. Nathalie Chevance et Alain Sirou sont prêts pour la castagne.
Europe 1.
Et honneur aux dames, c'est Nathalie qui va ouvrir les hostilités. Et si le masque qu'on va devoir s'habituer à porter à un bon moment pouvait devenir un accessoire de mode? À Marseille, c'est déjà le cas. Des masques avec des messages personnalisés font fureur. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
La compétition continue dans cette deuxième manche et on prend tout de suite la direction de la cité phocéenne. Marseille, où nous attend Nathalie Chevance pour parler Covid-19 et mode. Car oui, à Marseille, certains créateurs futés ont eu l'idée d'agrémenter les masques de motifs, mais aussi de messages, ou mieux, d'expressions marseillaises cultes comme « t'approche pas fada »,« on craint des gains », ou encore, j'imagine, le classique
Paris, on t'en...
Il est disponible ce modèle-là, Nathalie, ou pas?
Non mais vous avez tout dit déjà. Non mais non, Mathieu, vous m'avez cassé tout mon effet. Non, là je suis pas contente. Bon, déjà, faut que je vous dise quelque chose. Oui. Moi je vous parle de masque, mais je vous parle de masque lavable, utilisable plusieurs fois, aux normes AFNOR, fabriqué en France, dont la première utilité, c'est quand même de protéger.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
C'est pas des masques fantasy, quoi.
Oui, c'est pas carnaval.
Pas du tout.
Hein.
Non, c'est pas carnaval. Alors, il faut quand même bien se rendre à l'évidence que ce masque, il va plus nous quitter, en tout cas pendant quelques mois. Mmh. Autant qu'il soit agréable, joli, drôle, humoristique. Et c'est là, forcément, que les Marseillais sont très forts, très très forts. Avec, bien sûr, leur identité sudiste, avec toutes les expressions. Et l'idée, c'est donc d'afficher les plus pertinentes, quand même, dans le contexte sanitaire actuel. Du coup, ça donne ça. T'approches pas fada, ce qui veut dire, Mathieu.
Tu es fou, ne t'approches pas.
Tu es fou, ouais.
Voilà, geste barrière, là, on le
voit. Geste barrière, c'est vrai.
Oui. Fini les gâtés.
Ah, ça, je sais pas ce que
les
ça veut
bisous.
Dire. Ah, c'est les bisous, les gâtés?
Bah oui, les câlins. Fais-moi un gâté.
Ah oui?
Voilà, donc fini les gâtés. Donc là, c'est
pas. Ah, bah, je comprends mieux. Une meuf m'avait dit ça en été, j'avais pas compris. Moi, j'ai vu qu'elle voulait un gâteau.
Mais c'est pas des expressions n'importe quoi que je vous donne, C'est vraiment
bien
dans
sûr.
Le contexte actuel. Je crains des gains.
Ah, je crains personne.
Ça, je sais, parce que ça, c'est la devise de l'OM.
Ouais.
Mon club de cœur.
Des gains, c'est personne. Forcément, je suis masqué, donc forcément, je crains personne. Et la petite dernière qui s'affiche, parce que là, vous fanfaronnez, La petite dernière qui s'affiche en ce moment sur les masques, un peu plus dur à décrypter. Méfie, j'ai le skimfus.
Méfie-toi, j'ai... Ah bah non, je sais pas quoi.
Le skimfus.
Le skimfus, c'est le virus?
Non, méfie-toi, je suis malade. Mais en fait, skimfus, c'est une maladie un peu imaginaire. Vous savez, le Marseillais qui adore...
Ah,
voilà.
D'accord.
Voilà, donc c'est toujours...
Ah, je l'adore, celui-là.
Tu peux le sourire.
Ah alors, ouais, c'est pas mal.
Méfie, j'ai le skimfus. Alors, vous l'avez donc compris. L'objectif, c'est de sourire, de rire. Oui, mais avec les yeux. Bah oui, forcément, on ne voit plus.
Et oui, on voit plus
le visage, on est masqué. Voilà, c'est dédramatisé. Et cette idée, c'est celle de David Darmon Bonifaci, qui est le créateur de la marque Je viens du Sud.
Quand vous voyez un masque avec marqué t'approche pas fada, ça va très bien avec le masque parce que l'expression parle, mais en même temps, c'est très humoristique et c'est très décalé. Après, je pense qu'on est dans une période de déconfinement. On est tous stressés. Bon, voilà, on va être obligés tous de porter un masque. Ça va être obligatoire. Est-ce qu'il vaut pas mieux porter un masque déjà joli? Puis en plus de ça, de croiser quelqu'un avec le masque et il lit j'ai le skinfus ou fini les gâtés, tout de suite, ça va le faire rire. Même si on le voit pas, s'il porte un masque, on sourit qu'avec les yeux, avec un masque. Mais voilà, il faut, je pense, prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté tout en se protégeant. Faut pas oublier aussi qu'on vit une période compliquée, mais on reste fier de notre façon de parler.
Et oui, fier voilà, d'être marseillais. Ouais.
Et voilà, ce parler, ce phrasé marseillais qui fait quand même travailler plus de 500 personnes dans une usine du côté de Valence, sachant que des milliers d'unités ont été vendues en quelques heures, partout dans le monde, jusqu'au Canada. Même les soignants de l'hôpital Nord en réclament. Du coup, une autre production a été lancée avec de nouvelles expressions marseillaises à découvrir là très bientôt sur les masques.
Et alors, ça c'est pour les masques avec des messages, mais plus généralement, ces masques ils vont devenir un incontournable de nos dressings.
Ben oui, surtout qu'en cas malheureusement d'une nouvelle vague épidémique. Et d'ailleurs, les créateurs y ont pensé il y a déjà quelques années. En 2018 à Marseille, on voyait des mannequins défiler avec des masques originaux. Alors, soit couture, soit solidaire, hein, c'est-à-dire en matière recyclée. Le masque devient un peu notre identité, le moyen de révéler notre personnalité, comme l'explique Gina Luciani, qui est la présidente de la Maison de la Mode à Marseille.
C'est essayer de faire en sorte de l'intégrer d'une certaine manière pour pas qu'on se sente avec un accessoire usurpé. Donc on est en train de l'intégrer, comme par exemple la veste parka, qui était une veste d'urgence hein, auparavant, a pu être intégrée en tant que veste de tous les jours. Donc je pense que l'intention de tous ces créateurs, c'est de l'adapter à une vie quotidienne nouvelle. D'une certaine manière, c'est un accessoire. C'est comme porter un accessoire, comme porter un sac et porter des chaussures particulières. Donc on peut mieux s'affirmer en portant le masque. Je pense que c'est quelque chose qu'on va effectivement adopter, de mettre un masque en toute situation, même à la plage.
Nathalie, la petite question. Parce que vous interrogiez quelqu'un du musée de la mode, la directrice du musée de la mode. Est-ce que le musée va rouvrir ou c'est pas du tout à l'étude pour l'instant? Pardon pour la question.
Alors, le musée, pas pour l'instant. La maison de la mode, elle, reste ouverte parce que c'est aussi une école. Voilà.
D'accord. Ah oui, une école, oui, pour apprendre
absolument les métiers de la mode.
Il y a un truc qui manque dans tout ça, c'est le masque waterproof. Pour cet été à la plage.
Oui, c'est vrai.
Vous allez faire un carton.
Mais
on va créer ça, la marque avec Eva. Qu'est-ce qu'on va créer vite? On le dépose à la
oui. Présidente Gina Luciani parlait du masque sur la plage, mais vous savez qu'il y a déjà les maillots de bain avec le masque assorti.
Ah, ils y ont pensé.
Moi, je l'ai vu. Hein.
Oui, mais pas waterproof, Mathieu.
Non, il n'est pas waterproof. Alors, en tout cas, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il y aura forcément des collectors. Il y aura des masques collectors. Et ces masques, ils feront peut-être le bonheur du MUSEM. Vous le connaissez peut-être, c'est le musée des civilisations à Marseille. Et bien, ce musée est justement en train de récolter en ce moment tous ces objets en lien avec le Covid-19 dans le but d'en faire une exposition.
Ouais, c'est malin.
Eh bien,
c'est
comme ça, malin. Ça vous fera une autre chronique. Merci beaucoup, Nathalie Chevant. Serez-vous la grande gagnante du jour? Réponse juste avant 18h.
Ah, fada.
À suivre, les conseils télé-écran d'Eva Rock, suivi de la chronique d'Alain Sirou qui nous dévoile les résultats d'une étude finlandaise au titre étonnant, je cite, « Il n'y a pas que des connards qui conduisent des Mercedes ». Je dis peut-être, mais il y en a.
T'as vu ce que tu viens de faire?
T'es pas gros là? Tu peux me faire freiner, non?
Je t'emmerde, t'as rien.
C'est notre bagnole à loup qui est bousillé.
Mais en plus, il fout ma gueule, ce con!
Comme quoi, les études finlandaises, hein, Eva?
Eh oui.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Un jour, comme Edith Piaf, elle aura droit à son biopic. Née dans une baraque à Soka du Vieux-Nice, il y a 20 ans encore, elle vendait ses charmes en marge du marché.
Maratatouille, vous avez goûté Maratatouille?
Aujourd'hui, elle est une...
Vous êtes bête. Vous êtes vraiment stupide.
Aujourd'hui...
Le pire, c'est quand je l'ai dit hier, je me suis dit, voilà, il m'a détourné la phrase, ça va être une catastrophe monumentale.
Catastrophe a eu lieu aujourd'hui, elle est une figure de proue de l'audiovisuel
bien
français,
sûr.
Quelle trajectoire, quelle success story Eva. Vous nous dites ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir.
Oui, profitez de ce week-end alors pour découvrir une chaîne YouTube formidable et une série non moins formidable sur Netflix. D'abord, est-ce que vous connaissez Le Coroner?
Ah oui, mais j'ai jamais regardé ça. C'est quoi Le Coroner?
Ouais, je vous en avais parlé, mais il y a quelques mois,
mais
voire quelques années
aussi,
déjà.
Ouais,
tout à fait. Pour faire simple, en fait, c'est l'autopsie des morts du 7e art, en l'occurrence, là, vraiment les morts du 7e art. Il faut que vous imaginiez une salle d'autopsie. Il y a le médecin qui est devant un cadavre, et tout en débutant l'examen du corps, eh bien, il va analyser face caméra la mort de nos héros de cinéma ou de série. Alors, ça va de Scarface à Pulp Fiction, en passant par Le Roi Lion et Game of Thrones, ou encore Fight Club. C'est la dernière vidéo mise en ligne qui pourrait bien vous apporter d'ailleurs un éclairage inédit sur les personnages interprétée par Brad Pitt et Edward Norton. Je vous la conseille vivement. Je ne peux pas vous en diffuser un extrait parce que c'est, vous allez comprendre la fin du film, donc je me suis permise de ne pas le faire. En revanche, autre vidéo que vous pouvez regarder, et c'est une analyse au scalpel d'un épisode qui est consacré à La Ligne Verte avec Tom Hanks. Est-ce que vous vous souvenez de ce film qui est l'adaptation d'ailleurs d'un roman de Stephen King?
Je me souviens, il y a un très grand monsieur noir.
Exactement. Tom Hanks y incarne un gardien de prison qui veille sur John Coffey, le très grand monsieur noir, comme vous dites, un détenu qui est injustement accusé du meurtre de deux fillettes. Il est condamné à la chaise électrique. Et c'est un martyr si on écoute le coroner.
J'y sais. Mais l'histoire se répète et il se retrouve une nouvelle fois condamné par les siens. Il mourra, entouré de gens qui le haïssent, portant le poids du crime d'un autre, accompagné jusqu'à la mort par ses apôtres. La chaise électrique a tout simplement remplacé la crucifixion.
Et oui, JC pour Jésus-Christ, John Coffey en figure christique, ils ont les mêmes initiales. Voilà, il fallait oser la comparaison, mais l'analyse, elle est très très juste. Le coroner, c'est à la fois un regard critique sur les grands films et les séries, et c'est une source inépuisable d'anecdotes autour de ces classiques. Le tout est réalisé avec humour, c'est extrêmement bien produit. Sincèrement, il y a peu de chaînes sur YouTube qui proposent une telle qualité de production. Il faut saluer le travail de Mike, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom et qu'il m'excuse. Mike Zonenberg et Fabio Soares, qui sont les deux créateurs.
Voilà.
Et également Stéphane Godin qui joue le coroner et dont la dernière phrase est toujours la même.
Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.
J'adore la voix du coroner qui est à découvrir sur YouTube. Si vous aimez le cinéma, foncez, vous allez adorer, je m'en porte garante.
Le week-end, c'est aussi le moment, Eva, pour dévorer une petite série.
Oui, je vous en parlais tout à l'heure. Pour bien vous occuper, autant prendre une série en 4 saisons. Et avec Working Moms, vous allez en plus vous détendre. Encore que cette série à découvrir sur Netflix pourrait vous rappeler les moments que vous venez de vivre avec vos conjoints, conjointes et enfants pendant ce confinement. Alors le pitch, il est ultra simple. Des femmes reprennent le chemin du boulot après leur congé parental. C'était le début de la première saison. Et aujourd'hui, elle jongle entre le job, les gamins qui grandissent, les compagnes et compagnons. Extrait d'une des bandes annonces.
Je suis pas sûre d'être une bonne mère.
C'est quoi être une bonne mère?
Ne pas projeter nos problèmes sur eux pour commencer, ne pas s'en débarrasser dans une poubelle.
Ne pas les secouer.
Les maintenir hors des piscines, des fontaines et des lacs.
Ok. Passer du temps chez moi m'a un peu ouvert les yeux.
Surprise, j'apporte le déjeuner.
Tu bois du vin à midi?
Non.
Tu fais plus trop d'efforts vestimentaires dernièrement.
Pas cool.
Tu deviens un peu taré.
Oh, qu'est-ce que tu fais?
Je m'excuse.
Alors, présenté comme ça, je peux comprendre si certains me disent Working Moms, ça paraît pas très très original. Et pourtant, rarement, la parentalité n'a été aussi bien décrite dans une série. La galerie des personnages permet d'aborder des thématiques très diverses sans jamais céder à la caricature. Alors à tel point que parfois c'est un peu cru. Il n'y a aucun détail physique des femmes qui ne nous est épargné, par exemple. Que par exemple, voilà. Mais le plus réussi, en tout cas, à mon sens, c'est l'analyse du chamboulement psychologique que provoque l'arrivée d'un enfant. Tout ça est décrit avec humour. Non, la maternité n'est pas un Graal et Working Moms le prouve et c'est à voir sur Netflix.
C'est à voir sur Netflix.
Bien, j'ai adoré.
Et on sent que ça vous rassure.
Et ça me rassure vous tout dites, à fait, il faut le
tant
dire.
Tant mieux, pas d'enfant. Merci beaucoup Eva pour ces conseils.
Europe 1.
À suivre les amis, c'est hélas un des effets pervers du confinement. Moins de monde sur la route durant ces deux derniers mois, les gendarmes ont enregistré des records d'excès de vitesse et une forte augmentation des incivilités au volant.
Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher?
C'est quoi vos petits bolides là?
C'est des Mercedes.
Oh là là, ils font des voitures aussi.
Et pourtant, Eva, une étude finlandaise le prouve, c'est même son titre, il n'y a pas que des connards qui conduisent des Mercedes. Tous les détails, juste après YouTube Prime sur Europe.
One man come and go.
Child, c'était YouTube sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Qui n'a jamais commis un petit excès de vitesse, Eva ?
Oui, non.
Oui, nous autres Français ne sommes pas réputés pour être des grands gentlemen du volant. Et oui, on a tous fauté. Alain Sirou, notre expert scientifique, lui-même fait partie de ces Français qui, parfois, au volant de leur Xantia Break, affolent les compteurs et leurs passagers.
Monsieur, attention ! Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file ? Attendez, je vais doubler, je vais tripler. Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu, andouille !
Sommes-nous tous comme Alain, des chauffards ? Une étude finlandaise s'est penchée sur la question et les résultats sont plutôt étonnants, Alain.
Oui, d'ailleurs, c'est le professeur, retenez bien son nom, Jan-Erik Lundqvist, qui l'a réalisé. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi. Et en fait, il l'explique, il dit... Alors, tenez-vous bien, hein. je vais vous lire sa remarque. J'avais remarqué que ceux qui étaient les plus enclins à griller un feu rouge, à ne pas céder le passage aux piétons, et de manière générale à conduire trop vite et de façon téméraire, rouler souvent dans des voitures allemandes rapides, c'est-à-dire des Mercedes, des Audi, des BMW, et on voit bien qu'il est vénère le gars, parce que vraiment, il a voulu savoir...
Oui, c'est surtout qu'il était mal payé en fait et qu'il ne pouvait pas se les acheter, donc il a décidé de faire cette étude. Oui.
Et donc il a interrogé près de 2000 automobilistes finlandais en s'intéressant à leurs revenus, à leurs habitudes de consommation... À leur véhicule, bien sûr, mais aussi à leur trait de personnalité. Il s'est posé la question de est-ce qu'ils étaient extravertis, agréables, est-ce qu'ils avaient un caractère consciencieux, est-ce qu'ils sont ouverts vis-à-vis d'autrui. Bref,
qu'est-ce qu'il a découvert ?
Il a déployé toute la panoplie des moyens de la psychologie sociale, justement, au service de cette intuition comportementale.
Et donc, Alain, quelles sont les conclusions de cette étude ? Est-ce qu'il y a vraiment que des connards qui conduisent des Mercedes ou des gens sympathiques aussi peuvent, par le hasard de la vie, posséder un véhicule Mercedes-Benz ?
Alors, la première conclusion, c'est qu'il confirme d'abord que les véhicules haut de gamme les plus puissants sont, comme il dit, beaucoup plus susceptibles d'être conduits par des connards que les autres modèles. Il utilise à dessein le mot connard, asshole, dans la langue de Boris Johnson, pour qualifier le comportement de ses conducteurs qui enfreignent les règles de circulation plus fréquemment que les autres. Alors, il est décrit, tenez-vous bien, comme des hommes égocentriques, querelleurs, bornés, désagréables et peu empathiques. Et ce psychologue, d'ailleurs, lie ses traits de personnalité, et ça c'est important, au désir de posséder des produits haut de gamme, avec, pour ces gens-là, dit-il, un sentiment d'impunité chez des personnes qui se considèrent souvent comme supérieures et surtout qui souhaitent le montrer aux autres.
Mais il n'y a quand même pas que ce genre d'individus qui conduisent ce genre de voiture, Alain. Enfin...
Non, vous avez raison, c'est ça d'ailleurs qui est aussi la partie la plus intéressante de l'étude, parce qu'il va montrer deux autres choses. La première, c'est que la corrélation entre personnalité antipathique et voiture haut de gamme n'existe que chez les hommes et pas chez les femmes.
Ah.
Et oui, Eva. Et les auteurs de l'article pensent que la voiture n'a pas le même statut de marqueur social pour la gente féminine. Ensuite, et ça c'est peut-être plus inattendu, c'est que les personnes qu'ils qualifient de consciencieuses, c'est-à-dire de respectables, fiables, bien organisées, professionnellement performantes, sont quand même et aussi attirées par ce genre de voiture. Et là, pour les hommes et les femmes, c'est pareil. Et le lien, expliquent les chercheurs, est probablement lié à l'importance que ces personnes attachent à la qualité. L'idée de conduire une voiture qui est fiable,
sécurité avant tout.
Pour ces personnages, un message. L'idée qu'elles le sont également. Alors vous avouerez que c'est quand même une étude à la fois originale, en même temps géniale, mais l'idée au bout du compte, c'est qu'il faudrait quand même inviter ce chercheur finlandais à Paris
clairement.
Pour voir comment il qualifie les champs de bataille. Que vont devenir et que sont devenus nos carrefours.
C'est vrai.
Ça c'est sûr, parce qu'à mon avis...
Mais sincèrement, plus sérieusement, je pense qu'il y a des gens du marketing qui vont s'emparer de ce genre d'études. Hein, parce que pour cibler à la fois vos clients et dans le message que vous voulez faire passer...
Si je peux me permettre, Eva, moi qui connais un petit peu l'automobile, je dirais que cette étude n'est pas complète. Parce que vous assimilez, Alain, comme ce chercheur, voiture allemande, donc on cite les marques Mercedes, BMW, Audi, à des voitures puissantes. Chez Mercedes, BMW et Audi, il y a des voitures, et la plupart que vous voyez sur les routes, ne sont absolument pas plus puissantes que nos Renault, Peugeot et autres. Absolument pas. C'est juste un statut social. À mon avis, les connards sont à chercher là-dedans. Il y a des voitures BMW, Audi, Mercedes qui sont très puissantes, qui valent beaucoup plus cher et on ne voit pas qu'elles sont beaucoup plus puissantes en fait que les autres. Ça, c'est à mon avis une autre clientèle, mais c'est un autre débat.
En fait, Alain Sirou, il essaye de se dédouaner de cette étude. Il essaye de ne pas rentrer dans la catégorie du connard qui conduit une voiture puissante.
Quand on roule depuis 10 ans en Fiat Punto, je crois qu'on n'a pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Moi, les voitures, ça ne m'intéresse pas. Merci Alain Sirou.
Je reprends mon tracteur.
Reprenez votre tracteur Lamborghini. Merci Alain Sirou. Et vous savez, je ne paierai pas toujours la caution pour vous sortir de garde à vue. Promis, hein, la prochaine fois que vous vous faites contrôler par les keufs, vous essayez d'être moins insolent que la dernière fois, Alain.
Alors les petits pédés, on préfère rester en famille à se grignoter la biscotte. Hein. Dites-moi, ça vous dirait une love parade? Allez, qui même me suit?
Il va falloir faire un effort, Alain, avec les flics. Hein.
Europe 1.
Par souci de sécurité en ces temps de semi-déconfinement, nous ne les accueillons plus en studio. Les stars en sont fort chagrinées car elles adoraient participer à l'équipée sauvage où elles étaient si bien reçues. Notamment Elis et Moon qui avaient aimé notre ponctualité. Axel, Elis et Moon t'attend depuis 10 minutes, donc je peux te dire que...
Ah, j'étais à deux doigts de me casser, quoi, en fait.
Chaque après-midi avec Eva, vous propose de redécouvrir une interview marquante. Aujourd'hui, celle de l'écrivain Christophe Onodibio. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Bientôt, nous pourrons à nouveau accueillir des invités en studio. En attendant, Eva, il nous reste nos souvenirs. Tous ces merveilleux moments passés avec des actrices, des comédiens, des écrivains qui adoraient l'équipée sauvage, même s'ils étaient parfois surpris que ça dure deux heures, comme l'écrivain Christophe Onodibio à l'issue de ce qui n'était que la première partie.
Et c'est terminé ?
Non, c'est la moitié de l'émission.
Ah oui ! Bon, bah, très bien.
Super ! Le 29 octobre dernier, nous recevions donc Christophe Onodibio. Un grand écrivain qui, dans son dernier ouvrage, fait sienne la devise aristotélicienne reprise par Horace et traduite par Voltaire. Là, Eva a déjà perdu 776 neurones.
Ça s'inspire en s'amusant.
Cette devise, c'est... Mais laissez-moi faire ma phrase. D'enchérer et de platcherer, à savoir s'instruire en s'amusant. Oui, Eva, sachant que la devise de notre émission est elle aussi la citation d'un autre grand philosophe, Plescool. Plescool qui disait « Apprendre en s'amusant ». Je crois qu'avec notre invité, nous sommes faits pour nous entendre. Bonjour Christophe Onodibio.
Bonjour.
Vous publiez donc « La minute antique » aux éditions de l'Observatoire.
Entre Plescool et Horace.
C'est parfait. Ouais, ouais. L'idée des petits chapitres d'une minute pour relire l'actualité à travers le prisme des mythes antiques,
ouais.
C'est ça ?
Ouais, on peut le dire ça. Comme ça ? Ouais, les mythes et l'histoire antique. Ouais.
Comment vous est venue l'idée ?
Bah, c'est mon côté play school. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, comme beaucoup d'ailleurs de gens, j'adore ces histoires absolument dingues où on a des princesses fabuleuses, des armes magnifiques, des chevaux avec des ailes, etc. Et puis quand on regarde, on s'aperçoit que tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces gens-là, ils se trouvent il y a plusieurs siècles, les ont pensé et ils n'ont peut-être pas que des bêtises à nous dire.
La minute antique, 220 mini-leçons qui nous permettent d'appréhender l'actualité via les mythes de l'Antiquité. Quelques exemples de chapitres au titre gratiné. Karl Lagerfeld, Choupette et les filles d'Oedipe. Didier Deschamps, super mentor. Banksy à Pompéi, les larmes romaines d'Alain Juppé.
Ouais.
Ça m'a presque tiré des larmes. Même encore, l'affaire Benalla, vue d'avant Jésus-Christ. Ouais. Mais vous voulez pas venir faire une chronique dans notre émission ?
Ah bah écoutez...
Pourrez négocier ça, peut-être.
C'est une invitation. Non, mais c'est étonnant. Parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait envie de se pencher vers ces temps anciens et de se dire mais c'est la même chose ou presque. Voilà.
Eva.
Mais comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous relisez les anciens de façon perpétuelle et vous vous dites tiens, ça fait écho à l'actualité ? Ou vous êtes happé par l'actualité et vous dites tiens, est-ce qu'il y a une référence quelque part et je vais aller la chercher ?
Ouais, c'est les deux. Je cite, on a parlé d'Horace tout à l'heure, je cite aussi Alain Bachung, vous savez, pêcheur d'amphores au fond des criques. J'ai l'impression, j'adorerais être un pêcheur d'amphores. Il y en a de moins en moins en Méditerranée, des amphores, dommage. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand l'actualité me tend une perche, quand par exemple un jeune président parle de Jupiter, tout de
par
suite,
exemple,
évidemment.
Voilà, ça vous tend une
quand son
perche.
Ministre. Non, mais c'est vrai que.
Et surtout dans la tour Montparnasse, non ?
C'est Montparnasse.
C'est quand même incroyable.
C'est-à-dire le temple des muses. Quand Bruno Le Maire dit « I am Hermès ». Voilà,
Mais c'est facile à la rigueur. Mais quand vous allez faire le rapprochement entre le clip de Jay-Z et Beyoncé avec
le
concept grec, c'est un peu plus compliqué quand même.
Là, en fait, c'est un peu des images qui me reviennent. On parlait de l'enfance tout à l'heure et puis je dois ça aussi à mes profs de grec et de latin qui ont fait crever le ciel pluvieux de Normandie pour faire entrer le soleil méditerranéen, etc. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs. On a tous des souvenirs. Donc, sur les migrants, par exemple, c'est vrai que tout petit, on nous a raconté une histoire de la mère d'Apollon et d'Artémis, donc avec ces deux pauvres enfants, dans une ville étrangère qui crève de faim, qui crève de soif, qui trouve enfin une source. Alors, il y a des paysans qui sont là, locaux, elle veut y boire, ils disent non, va-t'en, tu n'es pas d'ici, voilà, la France aux Français, c'est presque ça. Et qui, alors qu'elle va boire, se mettre dans l'eau, agite la boue pour bien que l'eau soit imbuvable. Donc tout ça, ça vient, et parfois je fais des recherches. C'est-à-dire que là, je fais des recherches, mais tiens, qui a pu parler de ça? Donc c'est dans les deux sens, c'est assez passionnant. Je m'amuse beaucoup à le faire.
J'ai envie de vous parler alors des larmes.
Ah, des larmes de Juppé.
Des larmes de Juppé. Oui. Quel rapport avec l'Antiquité?
Les larmes de Juppé, vous vous souvenez des adieux à la vie politique Juppé, où d'ailleurs c'était un moment assez beau, et en cela, Juppé était très romain. Alors Alain Juppé est un grand connaisseur de l'Antiquité.
C'était calculé alors?
En tout cas, je pense que quand on a pratiqué ces auteurs-là, on finit par ressembler à ceux qu'on a lus. Et il est de bon ton qu'un empereur, notamment, fasse étalage de ses larmes, ça montre qu'il a un cœur. Donc on n'était pas du tout dans le culte du côté, le rock, l'empereur rock. Non, on doit montrer ses larmes. Et il y a une très très bonne chercheuse d'ailleurs qui s'appelle Sarah Ray, qui a consacré un livre aux larmes dans l'Antiquité et qui rappelait que les latins avaient au moins 10 verbes pour dire pleurer.
Ah oui.
Et donc Juppé a été extrêmement, il aurait aimé à l'époque, lui qui disait que les mœurs de la politique sont compliquées, donc ça nous rappelle O tempora o mores de Astérix.
Astérix, hein, oui, c'est ce que dit toujours le.
Mais il aura adoré, notamment parce que chez les anciens, les larmes étaient pour un chef d'État le moyen de se distinguer du vulgaire. Tout Juppé.
Europe 1.
À la veille de notre premier week-end déconfiné, il nous faut, Eva, retrousser nos manches.
Le PIB en a pris un coup, il faudra travailler beaucoup, on s'empiffrera tous sur des terrasses.
Oui, mais les terrasses étant encore fermées, ainsi que les restaurants, nous n'allons pas avoir d'autre choix, Eva, que de continuer dans un premier temps à nous empiffrer chez nous. Heureusement pour ça, il y a Olivier Pouls, Dilis in Extremis. Dilis in Extremis arrive juste après une nouveauté, signée M, Croix au printemps sur Europe 1.
Du temps de nos confinements, j'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant. les accents.
Croix au printemps, c'était M sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
À ce stade de l'émission, et sachant qui nous allons retrouver maintenant pour la chronique culinaire, il nous faut apporter une précision à l'étude finlandaise sur les comportements routiers intitulée, je le rappelle, « Il n'y a pas que des connards qui conduisent des Mercedes ». En effet, une étude française réalisée en Bourgogne sur les 9 dernières semaines est catégorique « Les connards conduisent aussi des Hummers ». Bonjour Snoop Doggy Bag.
Bonjour les amis, mais je dois vous dire qu'avant toute chose, j'ai une petite confession à vous faire et j'espère que malgré ce que j'ai à vous dire, vous garderez toute votre amitié pour moi. Mais en fait,
vous êtes devenu végétarien.
Mais non, mais Snoop Doggy Bag, c'est un fake en réalité. Et bah, il n'y a pas de Hummer, je n'ai malheureusement qu'une C15 de 380 000 km. Dans ma campagne bourguignonne, ce que vous pensez être le clapotis d'un jacuzzi 10 personnes rempli de chablis, bah, c'est l'abreuvoir à vache avec de l'eau toute croupie.
Ah oui, c'est important.
Ce qui m'a quand même valu un sacré urticaire après ma dernière baignade. Et puis bah, les mannequins nymphomanes, bah, c'est Gisèle Blanchu. Bah, quand même, deuxième dauphine Miss Jambon Persillé 63. Elle est coquine, mais bon, elle est un peu servie comme on dit. Donc voilà.
On les embrasse quand même. Hein. Elle pique un peu, mais ça fait plaisir. Ça tient compagnie.
J'espère que malgré tout ça, vous saurez me pardonner parce que j'ai une recette pour vous quand même. Ah. Ça, c'est pas du
allons-y.
Fake.
Alors, avec quoi on finit la semaine?
Ça, c'est du vrai. On va finir la semaine avec un tartare légumier. C'est un plat que j'aime beaucoup, qui est très facile à faire, qui est plein de fraîcheur, plein de bonnes vitamines, qui est rapide et facile à faire. Alors, les légumes de saison, on va prendre une courgette, une carotte, on va prendre un demi-oignon rouge, on va prendre une petite branche de rhubarbe. Il y a plein de rhubarbe en ce moment, et puis c'est délicieux la rhubarbe, ça va apporter un petit côté acide très sympa. Une petite poignée de radis et 2-3 fraises, tiens, pas trop mûres. Là, c'est pour le côté un peu arrondi et un petit peu sucré. On va prendre tous ces légumes, on va les laver, bien sûr, éplucher ceux qui doivent l'être. Et on va les détailler en tout petits morceaux, en tout petits cubes de 2 mm de côté. On va mélanger tout ça. Et à côté, on va se faire une petite sauce. Alors, sur la base d'une mayonnaise montée à l'huile d'olive, avec une belle cuillère de moutarde, un petit trait de jus de citron, de la menthe et de la coriandre.
Oh là là,
et surtout,
bon,
on
ne
mélange pas tout de suite. On mélange au moment manger. Alors, si vous voulez emporter ce petit tartare par exemple au bureau dans les jours qui viennent, bah, vous gardez la sauce d'un côté, le tartare de l'autre, et puis au moment de manger, vous réunissez le tout.
Et moi je mettrais un peu de reblochon par-dessus pour Eva.
Non,
si ça
veut
servir à Eva, j'ajouterais reblochon fondu.
Une belle généreuse cuillère de reblochon. Voilà.
Vous êtes toujours aussi aimables tous les deux.
Magic touch en plus.
Ouais.
C'est tout, Olivier Pouls? Pas de dessert avec ça?
Ah non, c'est bien.
Moi, je prendrais bien un petit dessert là.
On fera les desserts lundi si vous voulez.
D'accord. Moi, lundi, je veux un dessert.
Bon, ok, bah c'est bien noté.
Alors, j'avais prévu de vous faire un petit gâteau lundi. Est-ce que je m'y engage là tout de suite, comme ça là?
Vous donnerez la recette aussi à l'antenne pour les auditeurs.
Ouais, je veux faire un cake au citron.
J'adore les cakes au citron.
Ben voilà, ça y est, c'est la
vendu.
Voilà, ça
vendu.
Sera pour lundi matin.
Merci Olivier Pouls. Je crois que le téléphone sonne chez vous. Je vous laisse aller répondre. À demain. Pas demain. Demain dans la table des bons vivants.
Bah oui, avec Laurent Mariotte.
Avec Laurent Mariotte, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve lundi.
Absolument.
Gros bisous.
Europe 1.
Depuis le déconfinement lundi, un véritable vent d'allégresse souffle sur l'équipe et sauvage. Nos journalistes ont retrouvé le plaisir de se faire des petites blagues.
C'est toi le con qui a passé une commande de Viagra pour moi chez la pharmacienne.
Sacrée bande de déconneurs. Pourtant, dans quelques instants, ça va moins déconner, puisqu'un seul sera sacré chroniqueur du jour. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe et sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Les amis, ça y est, nous le touchons du doigt. Notre premier week-end déconfiné. Attention quand même à bien respecter la distanciation sociale. Je dis ça surtout pour vous, Eva. En attendant, il nous faut désigner le meilleur d'entre vous aujourd'hui. Et ça ne sera pas simple. Quatre journalistes, quatre talents. Stéphane Place, Farah Kesri, Nathalie Chevance, la fashionista Yoli. Sans compter le redoutable Alain Sirou, notre consultant scientifique, qui a visiblement profité du confinement pour faire quelques doublages de films pour adultes.
Si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Sans pseudonyme, Rocco Sirou-Freddy. Qui l'emportera? C'est l'heure du qui te double. Alain Sirou-Freddy, justement, pourquoi votre chronique est la meilleure aujourd'hui? Pourquoi doit-on voter pour vous?
Bah, avouez que si j'ai cité plusieurs fois une marque allemande haut de gamme, hein, vous pouvez être sûr que l'associer au mot connard ne va pas me faire un cadeau particulièrement agréable, mais au moins je vous aurais fait sourire.
C'est sûr. En revanche, cette marque qui nous écoute, Sylvain, a noté que je l'ai défendue.
Oui.
Et que donc, moi, en revanche,
oui,
je dois être en odeur de sainteté. Farah Kesri, pourquoi voter pour vous?
Oula, moi aussi je vais perdante un peu parce que je me dis la perspective de se faire renifler un chien doit pas vraiment vous séduire. Mais Mathieu, vous qui aimez faire du sport et tout, et qu'est-ce que vous préférez? Un chien qui renifle votre sueur dans une salle de sport ou bien qu'on vous enfonce un coton-tige dans les narines?
Alors très clairement, je préfère qu'un chien me renifle.
Ouais, moi aussi.
Attention, je suis, alors, je suis d'accord avec vous, Farah.
Ah, oui.
Nathalie Chevance, pourquoi voter pour vous et vos masques rigolos?
Alors parce que j'ai réussi peut-être à rendre attractif, drôle, sexy même peut-être, un masque chirurgical. Et ça, c'est pas évident. Masque chirurgical, rigolez pas, avec lequel vous êtes peut-être partir dès ce week-end, en week-end.
Voilà. Exactement.
Oui. Exactement. Pas votre masque.
Quant à Stéphane Place, Eva, on me signale qu'hélas, il est déjà parti vers quelque chose de plus important, puisque je crois qu'il a un barbecue effectivement à assurer. Merci quand même, Stéphane. Alors, c'est le moment du vote. En ce qui me concerne,
je crois que je vais
donner mon point aujourd'hui. Allez, je vais le donner à Farah Kessri, parce que quand même, cette histoire de chien capable de renifler le virus, et si ça peut nous éviter d'avoir un coton-tige dans le nez, moi ça m'arrange.
Ah oui, c'est
merci
ça.
Farah,
vous êtes trop hypochondriaque pour ça.
Et Baroque.
Ouais, je crains des gains. Un point pour Nathalie, quoi, forcément.
Quel accent marseillais, vraiment. Vraiment. Et vous êtes du Sud. Et vous êtes du Sud et vous ne savez pas imiter l'accent marseillais.
Je suis niçoise, je suis pas marseillaise.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Alors.
Un point pour Nathalie Chevance. Romain Causer, notre réalisateur.
Mathieu, je vais voter pour Farah Kessri et les chiens détecteurs du Covid.
Attention, Farah Kessri, deux points. Romain. Vous êtes peut-être à quelques secondes une victoire historique, Farah, dans cette émission. Les auditeurs doivent décider.
Ils ont décidé pour Farah Kessri.
C'est Farah qui remporte avec ses chiens, renifleurs.
4 points.
Et oui, on ne sent pas le cul, sauf en ce moment. C'est la joie du Covid. Merci beaucoup, Farah Kessri. Merci à tous. C'était la 174e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes petits confinés, Eva Rock, Farah, Nathalie Chevance, Stéphane Place, Alain Sirou, Olivier Pouls, Romain Causer et Rémi Duprat en régie, et mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutron, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Sébastien.